Aujourd'hui, nous allons parler des habitudes. Si vous vous sentez politiquement impuissant, je vais vous expliquer exactement pourquoi cela se produit et comment y remédier. Car la vérité, c'est qu'il n'y a que 7 habitudes qui distinguent les organisateurs communautaires efficaces des internautes qui s'acharnent sur la catastrophe. Je vous promets que si vous mettez en œuvre ces pratiques, vous serez en mesure d'apporter un réel changement dans votre communauté et de commencer enfin à vivre selon vos valeurs. Je sais que cela fonctionne parce que j'ai passé les 4 dernières années en ligne à documenter le travail d'organisation que je fais dans la vraie vie. Et pendant ce temps, j'ai eu l'honneur d'apprendre de dizaines d'organisateurs qui ont des décennies d'expérience. Dans cette vidéo, je vais donc exposer ces 7 habitudes des gauchistes très efficaces. De plus, je vais vous donner un tas de ressources bonus gratuites en cours de route pour vous aider à assimiler ces leçons. Écoutez bien, il ne s'agit pas seulement d'une liste de conseils génériques générés par l'IA. Ce sont des pratiques très spécifiques et exploitables que j'ai apprises par essai et erreur ou qui m'ont été enseignées par des militants chevronnés. Voilà tout ce dont vous avez besoin pour devenir politiquement inarrêtable. Si c'est ce que vous recherchez, c'est parti. Cette première habitude est absolument essentielle et elle est d'une simplicité déconcertante. Et pourtant, la plupart des gauchistes à qui j'ai parlé ne l'ont pas mise en œuvre. Et à cause de cela, ils sont politiquement paralysés. Laissez-moi vous donner un scénario hypothétique. Disons que vous avez un ami qui adore la pêche. Il regarde des vidéos de pêche sur YouTube toute la journée. Il a une connaissance encyclopédique de toutes les différentes variantes de la pêche. La pêche en haute mer, la pêche à la mouche, ce truc qu'ils font sur TikTok où ils versent du coca dans un trou et le poisson en sort. Je veux dire, je ne sais pas si c'est faux. Ça a l'air faux. Je veux dire, c'est impossible. Le fait est que ce type est à fond dans la pêche. Il n'y a qu'un seul problème. Votre ami n'a jamais pêché de sa vie. Il n'a jamais touché une canne à pêche. Dans cette optique, je vais vous poser une question très simple. Votre ami a-t-il le droit de se dire pêcheur? Je dirais que non. Même si votre fils a plus de connaissances théoriques qu'un vrai pêcheur, il ne peut pas se considérer comme tel. Pourquoi? Parce qu'il ne fait tout simplement pas ce qui fait de quelqu'un un pêcheur, c'est-à-dire attraper du poisson. D'accord. Comment cette histoire s'applique-t-elle à la manière de devenir plus efficace en tant que gauchiste? Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous ayez déjà été comme le type dans ce scénario à un moment donné. Vous suiviez la politique de très près. Vous aviez des opinions très arrêtées, mais vous ne faisiez rien pour y remédier. J'ai clairement commencé comme ça. Et avec le recul, je pense que cela m'a énormément freiné. Alors, quel est le gros problème avec la politique en ligne? Eh bien, comme le disait le médecin médiéval Paracelsus, la dose fait le poison. Quand on débute, Internet est un excellent endroit pour apprendre la politique. Le problème, c'est que c'est un endroit horrible pour faire de la politique et cela freinera votre développement politique pendant des années si vous ne passez pas à l'étape suivante. Alors, quelle est cette prochaine étape? Eh bien, dans le cas de notre ami hypothétique, il doit littéralement pêcher ou couper l'appât. Pour les gauchistes, c'est pareil. Vous devez décider si la politique n'est pour vous qu'un sport de spectateur, auquel cas, c'est normal. C'est un passe-temps étrange, mais je ne juge pas. Ou si vous voulez vous lancer dans la course et devenir un véritable gauchiste. Alors, comment mettre notre politique en pratique? J'ai longtemps hésité. Revenons à notre analogie. Qu'est-ce qui définit un pêcheur? Ce n'est pas d'avoir une idée parfaitement réfléchie et rationnelle de la bonne technique de pêche. C'est de sortir, de lancer sa ligne et, avec un peu de chance, d'attraper du poisson. De même, qu'est-ce qui définit un gauchiste? Ce n'est pas de parler de politique. C'est de faire de la politique. Et la meilleure façon de mettre votre politique en pratique que j'ai trouvée est de rejoindre une organisation politique. De trouver un groupe qui partage vos valeurs, puis de travailler avec eux et d'apprendre d'eux. C'est l'habitude numéro 1 pour une raison. Oubliez les gauchistes très efficaces. Si vous voulez être un gauchiste efficace, bon sang, si vous voulez être une personne politique, point final, vous devez prendre l'habitude de faire du travail d'organisation. Une idée stupidement simple, mais je pense que nous avons tendance à l'oublier parfois. Les gens parlent tout le temps de polarisation. Se battre sur Internet n'a rien à voir avec la politique. D'accord, nous sommes une nation très très apolitique en fait. Alors comment pouvez-vous réellement vous organiser? Je ne vais pas parler des tenants et aboutissants de la recherche d'une organisation dans cette vidéo pour gagner du temps. Mais si vous voulez une analyse complète qui vous apprend la méthode la plus simple pour trouver une tonne de bonnes organisations de gauche, peu importe où vous vous trouvez, étape par étape. Je laisserai un lien vers ce guide dans la description. Bon, passons à autre chose car ce deuxième point est extrêmement important. Si vous ne le comprenez pas, vous allez perdre beaucoup de temps. Cette prochaine habitude peut sembler intimidante, mais je vous promets qu'elle est absolument essentielle. Car si vous n'apprenez pas cette compétence, vous finirez par perdre des années à tourner en rond et à investir votre énergie au mauvais endroit. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un moyen simple de mettre en œuvre cette pratique, et je vais vous la montrer. Mais laissez-moi d'abord vous brosser un tableau pour vous faire comprendre à quel point cette habitude est importante. Disons que vous voulez faire un road trip de New York à Los Angeles, mais que vous n'avez jamais conduit de voiture auparavant. Comment allez-vous mener à bien cette aventure à travers le pays? Eh bien, vous pourriez essayer de vous y retrouver et de vous guider en fonction de vos émotions. Ou vous pourriez ouvrir la boîte à gants et lire la carte, le manuel de la voiture et le guide de l'étiquette routière, car de cette façon, vous pourriez interpréter les panneaux de signalisation. Vous sauriez comment conduire et entretenir votre véhicule. Vous comprendriez les itinéraires. C'est un peu une évidence, n'est-ce pas? Vous voulez lire la carte. Alors, Quel est le rapport avec la politique? Eh bien, si ce n'était pas encore évident, la version gauchiste de la lecture de la carte est une lecture théorique. Je suis sûr que vous avez entendu cela un million de fois, mais il y a une raison à cela. Et je veux vraiment insister là-dessus, car la plupart des gens n'ont aucune idée de l'importance de la théorie. Ils entendent juste lire la théorie, lire la théorie, lire la théorie. C'est agaçant. Tout comme il serait stupide de ne pas lire la carte avant de partir en voyage, il serait stupide de penser que l'on peut organiser un mouvement politique réussi du premier coup sans consulter la stratégie qui a fait ses preuves. Maintenant, pour être juste, la théorie n'est pas une écriture sainte. D'accord, votre carte a peut-être besoin d'être mise à jour, et c'est très bien, mais ce n'est pas une raison pour la jeter. D'accord, donc lire la théorie est évidemment très important, mais quel est le meilleur moyen de prendre l'habitude de lire sans en faire un travail à plein temps? Je pense qu'il y a cette idée fausse selon laquelle il faut commencer par marque capitale et que la théorie est cette grande chose effrayante. En vérité, vous savez, il n'y a aucune loi de la théorie qui dit qu'il faut commencer par les classiques. Il est tout à fait normal de commencer par des livres modernes plus accessibles, puis de revenir à la source. Si vous souhaitez vous lancer dans la lecture de théorie, mais que vous ne savez pas par où commencer, je vous laisse un lien vers mon guide de démarrage gratuit sur la théorie de gauche dans la description. J'ai conçu cette liste pour vous donner un aperçu très accessible. Cela dit, si lire avec vos yeux est trop difficile pour vous, je vais vous donner une méthode encore plus simple. Trouvez une liste de lecture auprès de moi ou sur Reddit ou ailleurs, puis écoutez simplement des résumés de ces livres sur YouTube. Je sais que c'est un blasphème. Est-ce aussi bien que de lire soi-même la théorie? Non, bien sûr que non. Il est toujours préférable d'aller à la source. Quand je dis lire la théorie, vous devriez vraiment lire la théorie. Cependant, je pense toujours que les programmes qui résument et synthétisent les principaux ouvrages théoriques, comme par exemple Rev Left Radio, sont utiles. Ces programmes sont précieux car ils vous permettent d'assimiler un tas d'informations en un laps de temps relativement court. Sérieusement, si vous écoutez ce programme tous les jours pendant votre trajet pendant un mois, vous aurez un assez bon aperçu des marques et des angles du moins. Et ça vaut beaucoup. Très bien, passons à autre chose. Ok. Donc cette troisième habitude est délicate parce que presque tous les gauchistes font exactement l'inverse. Et ils se sont convaincus que cela les rend plus efficaces politiquement d'une manière ou d'une autre. En réalité, ce modèle de comportement est la raison numéro 1 pour laquelle tant de gauchistes se sentent coincés et épuisés 24h, 24 et 7J7. Je vais donc vous montrer comment inverser cela et comment améliorer votre santé mentale et votre productivité dans le processus. Ça vous semble bien? Cool. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer mon propos. Dans la communauté du culturisme, il y a un peu de mème autour de ce concept connu sous le nom de « Dirty Bulk ». Ça marche comme ça. Si vous voulez prendre de la masse, vous devez manger plus de calories que vous n'en brûlez. C'est ce que nous entendons par « prise de masse ». Mais si notre objectif est juste de consommer autant que possible, alors pourquoi ne pas manger un tas de trucs riches en calories comme de la glace, de la restauration rapide et des sodas? D'où la logique du « Dirty Bulk ». Maintenant, j'espère que vous commencez à voir le problème ici. Bien que ces trucs soient riches en calories, ils ne sont pas riches en nutriments, ce qui signifie qu'ils sont vraiment mauvais pour la santé. La plupart des gars que je connaissais qui ont expérimenté le dirty bulking à l'époque ont fini par prendre de la graisse plutôt que du muscle. Disons les choses comme ça. Alors, quel est le rapport entre la musculation et la prise de bonnes habitudes en tant que gauchiste? Eh bien, rien. C'est une analogie. Mais sérieusement, ce que je veux dire, c'est que la faille fatale de la logique du dirty bulking est de supposer que toutes les calories sont égales. Alors qu'en fait, elles ne le sont manifestement pas. Et tout comme il y a une différence entre les calories riches en nutriments et les calories pauvres en nutriments, il y a une différence entre le contenu riche en information et le contenu pauvre en information. Faire défiler, c'est comme manger du sirop de maïs à haute teneur en fructose et de l'huile de pépin. C'est conçu pour être hyper appétissant, mais il n'y a aucun contenu nutritionnel. Le problème, c'est que beaucoup de gauchistes confondent la consommation de contenu politique avec la politique. Et si vous pensez être immunisé contre la propagande, si vous pensez être immunisé contre le défilement catastrophique, si vous pensez être immunisé contre la manipulation émotionnelle, détrompez-vous. Car la vérité, c'est que les fils d'actualité des médias sociaux sont conçus pour vous servir des informations de mauvaise qualité, optimisées par des algorithmes pour détourner votre dopamine, détourner votre cortisol et vous mettre dans cette transe de défilement catastrophique. Aucun jugement. Je suis passé par là plein de fois. Je dis juste qu'en tant que gauchiste, nous devons arrêter de faire semblant que ce genre de choses est sain ou productif. Oh mon Dieu! Ce n'est pas une coïncidence si les meilleurs organisateurs que je connaisse exercent une discipline très stricte sur leur consommation de médias. Alors, comment pouvez-vous utiliser les médias sociaux comme un outil plutôt que comme un sédatif? Tout d'abord, vous devez désactiver les notifications de toutes vos applications de médias sociaux. C'est juste le strict minimum. Allez, mais si vous voulez vraiment vous y mettre à fond, et pourquoi ne le feriez-vous pas? Vous pouvez faire un jeûne médiatique d'une semaine. Cela signifie vous débarrasser de tout ce qui ne sert pas directement vos objectifs politiques, comme supprimer les applications de votre téléphone. Faites cela pendant une semaine, puis revenez dans les commentaires de cette vidéo et dites-nous si vous ressentez quelque chose de différent. Au fait, si votre cerveau vous donne des excuses en ce moment pour expliquer pourquoi ce défi ne s'applique pas à vous, c'est le signe que vous devez le relever. Je sais que c'est un peu extrême, mais si vous voulez des résultats extrêmes, vous devez prendre des mesures extrêmes. Point final. Encore une fois, débarrassez-vous de tout ce qui ne sert pas directement vos objectifs, y compris moi. J'espère que ma chaîne sera un élément positif dans votre vie, mais si ce n'est pas le cas, vous avez mon entière permission de supprimer YouTube. Comprenez bien que je tue ma rétention et mes vues en vous disant cela. Je me suis tiré une balle dans le pied plusieurs fois pour poursuivre mon objectif. J'ai littéralement supprimé TikTok. J'ai arrêté de poster sur un compte avec 150 000 abonnés. Je recevais des messages privés. Je gagnais de l'argent. Je me suis défoncé. J'ai abandonné tout ça. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi, mon garçon. Je te promets que tu vas pouvoir le faire. Bon. Passons à autre chose. Habitude numéro 4. Voici une vérité brutale. Tu peux avoir la meilleure politique du monde, mais si tu ne comprends pas ce que je vais t'apprendre, tu continueras à être ignoré, et tu ne sauras même pas pourquoi. Réfléchis-y de cette façon. Imagine que tu as un chef brillant qui cuisine les plats les plus incroyables et les plus appétissants, mais qu'il les jette ensuite tous ensemble dans une assiette en carton. Qu'est-ce qui va arriver à ce chef ? Malheureusement, ce chef va se faire battre à chaque fois par un chef médiocre qui dispose ses plats avec élégance sur un plateau doré. Pourquoi ? Parce que l'emballage est important. C'est pourquoi les meilleurs restaurants du monde sont obsédés par la présentation. L'aspect de la nourriture, la façon dont elle est disposée, même l'assiette sur laquelle elle est servie ou le matériau de la nappe. Mais attendez, il est impossible que la nappe du restaurant affecte le goût de la nourriture, n'est-ce pas ? Faux. En fait, ils ont fait des études là-dessus. Très bien, c'est dingue. Alors, faites attention. On a servi 3 verres de vin aux gens. Un d'une bouteille bon marché, un d'une bouteille de milieu de gamme et une bouteille vieillie d'un vignoble très haut de gamme respecté. Sans surprise, les gens ont estimé que le vin le plus cher avait meilleur goût. Vous voyez peut-être où cela mène. Le hic, c'est que c'était littéralement le même vin dans chaque bouteille. L'essentiel, c'est que la présentation compte. Et pour en revenir à la politique, je pense que c'est un grand angle mort de la gauche. La plupart des gauchistes pensent qu'avoir raison, que connaître la théorie suffit à gagner des arguments. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Pour le meilleur ou pour le pire, la persuasion ne consiste pas à avoir raison. Il s'agit d'être clair, compréhensible et convaincant. En d'autres termes, tout est question de présentation. Cet art de la présentation claire et convaincante s'appelle la rhétorique. C'est une grande partie de ce que je fais sur cette chaîne. Je ne vais donc pas entrer dans les détails de la manière de le faire dans cette vidéo, mais si vous voulez lire quelque chose de rapide qui va améliorer vos compétences en rhétorique, je vous laisse un lien vers un e-book que j'ai écrit ci-dessous. Il s'appelle le guide de poche de la rhétorique de gauche. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour arrêter de vous laisser dominer par les faits et la logique. De plus, si vous voulez aller plus loin, regardez l'une des vidéos de rhétorique 101. C'est une playlist sur ma chaîne. Bon. Passons à l'habitude numéro 5 suivante. Et si je vous disais que le moyen le plus rapide de devenir indispensable dans un mouvement n'est pas d'en faire plus, mais d'en faire moins. Pour illustrer mon propos, je veux que vous repensiez à l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire américaine, les missions Apollo. Pour réussir l'alunissage, tout le monde à la NASA devait être hautement spécialisé dans le travail d'équipe. Imaginez maintenant que chaque membre du contrôle de mission essaie de faire un peu de tout, un soupçon de propulsion, quelques trucs de communication, un peu de météorologie. Ce serait le chaos total et personne ne serait très bon dans son travail. Alors, quel rapport cela vous donne-t-il ? Eh bien, il y a cette idée selon laquelle pour être un organisateur efficace, il faut être bon dans tout. Démarchage, prise de parole en public, rédaction, logistique. Je ne suis pas d'accord, car si vous vous dispersez et que vous acceptez une douzaine de tâches différentes, vous finirez par être un touche-à-tout, mais un maître dans aucun. Au lieu de cela, vous devez prendre cette habitude, la spécialisation. C'est bien de rebondir et d'expérimenter quand on débute dans une organisation. Mais une fois que vous savez ce que vous faites bien, choisissez une spécialité et perfectionnez-la sans relâche. D'ailleurs, c'est pour cela que l'organisation est si précieuse. Beaucoup de gauchistes souffrent du syndrome du personnage principal. Des gens très individualistes. C'est ironique. Lorsque vous êtes membre d'une organisation, en revanche, vous avez une équipe de personnes autour de vous qui, idéalement, ont toutes leurs propres fonctions. Votre travail consiste à déterminer où vous vous situez dans cette organisation et à devenir bon dans votre travail. Vous n'êtes pas spécial. Vous n'êtes pas un flocon de neige magnifique ou unique. Vous êtes la même matière organique en décomposition que tout le reste. Si vous voulez agir sur ce point dès maintenant, je vais vous donner un petit exercice. Réglez un minuteur de 5 minutes. Notez 3 compétences dans lesquelles vous êtes bon. Réglez ensuite un minuteur d'une minute et choisissez l'une de ces compétences sur laquelle vous concentrez. Trouvez ensuite une liste de comités ou de groupes de travail dans votre organisation et rejoignez celui qui correspond le mieux à cette compétence. Cela ne signifie pas que vous êtes enfermé à vie. Vous essayez simplement de découvrir ce que vous aimez faire afin de pouvoir vous concentrer sur le fait de devenir bon dans cette compétence. Très bien. Continuons. Habitude numéro 6. La plupart des gauchistes ne développent jamais cette habitude suivante. Et c'est vraiment triste, parce que si vous ne travaillez pas là-dessus, vous finirez comme eux, à vous cogner la tête contre les murs pendant des années, en vous demandant pourquoi vous ne progressez pas. Dès que j'ai commencé à faire ça, j'ai progressé 10 fois plus vite. Pensez-y comme ça. Chaque grande figure a un entraîneur. Mike Tyson avait Kostoy Yamato. Karate Kid avait Monsieur Miyagi. Et Superman avait ses parents au Kansas qui lui ont appris à se battre pour ce qui est juste. Ce dont je parle, c'est d'un rôle essentiel dans la vie de chacun. Mais c'est un rôle qui, pour la plupart d'entre nous, est totalement absent. Ça me dépasse. Je parle, bien sûr, du mentorat. Le simple fait d'obtenir un petit retour d'information de quelqu'un de plus expérimenté peut considérablement réduire vos progrès. C'est vraiment dommage, car je pense qu'il existe une idée fausse selon laquelle les personnes âgées ne veulent pas de mentor. Vous savez, oh, je suis sûr qu'elles sont occupées. Je ne veux pas m'imposer. Je suis heureux de dire que ce n'est pas vrai. Les personnes expérimentées aiment transmettre leur sagesse à des personnes qui sont, vous savez, intelligentes, avides d'apprendre, respectueuses. D'accord. Comment trouver un mentor? Si vous êtes dans une organisation, ce processus est en fait assez simple. En supposant que vous ayez mis en œuvre les habitudes dont je vous ai parlé jusqu'à présent, vous êtes maintenant dans une organisation et vous commencez à vous spécialiser dans une compétence particulière. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de trouver la personne dans votre organisation qui maîtrise le mieux la compétence dans laquelle vous avez choisi de vous spécialiser. Puis apprenez à la connaître. Commencez à poser des questions. Commencez à rechercher des commentaires. Portez-vous volontaire pour l'aider. Commencez à développer une relation. Vous serez absolument surpris du nombre de personnes réceptives à ce genre de relation. Vous pouvez le faire dans la vraie vie gratuitement, mais si vous souhaitez obtenir de l'aide de ma part personnellement, je propose du coaching pour les gauchistes qui souhaitent spécifiquement créer ou développer une chaîne YouTube. Si cela vous intéresse, allez dans la description. Voici des instructions pour réserver un appel gratuit avec moi. Bon, continuons. Habitude numéro 7. Cette dernière habitude est un peu bizarre. Cela peut paraître contre-intuitif, mais si vous l'ignorez, je vous promets que vous finirez par vous épuiser, perdrez votre dynamisme, et finirez par abandonner complètement l'organisation. Laissez-moi vous donner une analogie pour bien souligner ce point. D'où je viens, beaucoup de gens sont agriculteurs, et les agriculteurs savent que si vous plantez un champ avec la même culture année après année, le sol commencera à s'épuiser. Les agriculteurs font donc ce qu'on appelle une rotation des cultures. Ils peuvent donc planter du maïs une année, du blé l'année suivante et du soja l'année d'après. Ils peuvent même laisser les champs en repos, ce qui signifie qu'ils ne plantent rien pendant un certain temps. Cela donne au sol le temps de récupérer et conduit finalement à une récolte plus abondante. Parfois, en tant qu'organisateur, nous avons besoin de nous reposer un peu. Contrairement à ce que vous pourriez penser, les militants les plus dévoués ne sont pas ceux qui mangent, dorment et respirent politique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les personnes qui durent, celles qui font du bon travail sur le long terme, sont celles qui ont une vie en dehors de l'organisation. Par exemple, j'adore la photographie et j'adore être en plein air. Le mois dernier, j'ai fait une randonnée sur la plus haute montagne des Rocheuses et j'ai pris des photos de tout. C'était génial. Et le meilleur dans tout ça, c'est que comme j'ai ce talent de photographe, on m'a demandé de prendre des photos lors de la convention annuelle de mon chapitre. C'est juste un petit bonus, n'est-ce pas? J'ai pu apporter une valeur ajoutée à mon groupe grâce à mes compétences. Nous comprenons donc pourquoi il est important de prendre du temps pour se ressourcer. Mais encore une fois, comment mettre en œuvre cette habitude? Quelle est la meilleure façon d'intégrer la politique dans votre vie afin d'être plus efficace, plus heureux et d'avoir plus de temps libre à passer avec vos amis et votre famille? Eh bien, cela va paraître vraiment étrange, mais je veux que vous considériez la politique comme un travail. Et une fois que vous avez fait une journée de travail honnête, vous avez la permission de pointer et d'arrêter de penser à la politique pendant un moment. Structurez votre vie en prévoyant des périodes prolongées de concentration intense suivies de périodes prolongées de pure relaxation. C'est très contre-intuitif dans notre société moderne. Ils veulent que nous soyons actifs tout le temps. Mais je vous promets que si vous revenez à cette façon naturelle de travailler, vous découvrirez quelque chose de très surprenant. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Ce que nous faisons en tant qu'organisateurs, c'est inventer l'avenir. La vérité cachée ultime du monde est que c'est quelque chose que nous créons et que nous pourrions tout aussi bien créer différemment. Cela vient de David Graeber. C'est l'une de mes citations préférées. J'ai dit dans l'intro que ces habitudes vous rendraient politiquement inarrêtable. Ce n'est pas un piège à clic. Ce n'est pas une hyperbole. C'est la vérité. Car être inarrêtable ne signifie pas gagner toutes les batailles. Cela signifie avoir la force de continuer à se battre. Je vous ai donné de nombreuses ressources et exercices dans la description. Allez-y, profitez-en. En attendant, un monde meilleur est possible.